Nous ouvrirons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Je voudrais vous saluer très fraternellement, très amicalement en Christ, et que ce sabbat soit un sabbat de paix et de joie pour chacun, à la mesure de ce que Dieu a réservé pour les uns et les autres. La construction de la tour de Pise, que nous allons voir tout à l'heure en image sur un croquis, cette construction a démarré en 1173. Voilà, nous pouvons constater les différentes étapes de cette construction. D'après les informations de l'époque, l'architecte avait conçu cet édifice dans le but d'ajouter à la cathédrale un cachet architectural sans précédent. Bien sûr, cette tour allait abriter son clocher. Le peuple de Pise trouvait ici l'occasion de se vanter d'une richesse toute particulière. Au fur et à mesure de la construction, un problème d'une gravité majeure a été constaté. La tour n'était plus de niveau et sa base est devenue fébrile. Elle penchait de plus en plus. Et bien sûr, cette particularité est devenue une curiosité touristique attire les curieux du monde entier. Alors, deux erreurs techniques ont été relevées et deux constats, peut-être, on peut faire ce matin. Nous avons pu voir il y a quelques sabbats, nos jeunes sont allés donc à Pise pour le comparer. Ils ont visité cet endroit. Est-ce que vous avez peut-être en mémoire peut-être quelques souvenirs concernant le défaut de cette construction ? En tout cas, les informations que nous avons, c'est que le terrain sur lequel cet édifice a été élevé, c'est un ancien marécage qui a été remblé. Et le deuxième constat relevé par rapport à cette fondation qui n'était pas assez profonde par rapport au type de terrain. Donc négligence, précipitation, manque de connaissances, le résultat parle de lui-même. Afin d'éviter donc la chute de la tour, elle fut fermée aux visiteurs dans les années 90 afin de procéder donc à des travaux de consolidation dans le but de redresser l'inclinaison de celle-ci d'environ 40,6 cm. Et bien sûr, il est intéressant toujours de considérer les sommes astronomiques que les hommes peuvent injecter pour sauver cette bâtisse de la ruine. Elle a été estimée à 27 370 000 euros. 27 370 000 euros pour redresser cette tour de 40,6 cm. Nous sommes ici, bien sûr, dans ce qu'on peut appeler l'irresponsabilité, peut-être, des sommes engagées pour sauver ces quelques cailloux. Alors, bien sûr, je pense que, à travers ce que je viens de dire, chacun pourra apporter une réflexion tout à fait personnelle dans cette démesure. Le coût du centimètre, en tout cas, ça revient à environ à 674 000 euros. Ce n'est pas grand-chose, dirait-on, ou ça fait beaucoup. On peut peut-être voir la deuxième vue, merci. Aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, cette tour, elle penche encore, et de plus en plus, ce n'est pas, comme on peut le voir sur cette photo ici, qui est à ma gauche, c'est Joy qui essaye de retenir cette tour lors de la visite de nos jeunes en Comporée. Et bien sûr, ce n'est pas le coup de pouce de Joy qui empêchera quoi que ce soit. C'est une belle image et je crois que beaucoup ont dû jouer de ces photos. Dans le récit qui nous a été lu par Michel, c'est bien sûr une parabole, comme Jésus aime à les raconter pour emmener son auditoire à la compréhension de l'Évangile. Et nous verrons que même pour celui qui veut construire son avenir sur le Christ, la construction ne se fait pas sans danger, voire sans risque. Deux hommes donc décident de construire leur maison. Ces deux hommes sont libres de choisir le terrain, son emplacement. Ils ont reçu les mêmes informations techniques liées au risque de la construction. Deux hommes dotés de moyens financiers importants, voire suffisants. Et pourtant, un trait de caractère différent va, dans leur choix, lier leur destinée. Ce matin, je vous propose de voir ensemble la piste de l'homme pressé. Le chapitre 5 et 6 de Matthieu, et bien sûr le chapitre 7, le Christ nous fait voir tous les aspects de la vie, en passant du souci au meurtre. Il ne nous impose pas, mais il nous propose de faire un choix. Celui de lire la parole, de considérer ses enseignements et de la mettre en pratique, ceci dans tous les aspects de notre vie. On raconte l'histoire d'une famille vivant en Belgique qui a choisi de construire sa maison. Le témoin de cette histoire, voisin de la famille, a vu durant des mois et des mois cette maison se construire depuis la fondation jusqu'à presque son achèvement. Ce fut un travail difficile et laborieux, dit-il. Mes amis, nous vivons aujourd'hui dans une société de l'immédiateté, du tout de suite, sans réfléchir parfois aux conséquences. C'est la course à la possession et dans le sujet qui nous intéresse ce matin, on est prêt à acter les choses préfabriquées, dû alléger au moindre frais. Mais bâtir correctement une maison, ça prend du temps. Il est vrai que la technologie et les concepts industriels ont fait des prouesses en la matière, mais peut-on vraiment rêver d'une maison à 1 euro par jour? Certains se sont lancés dans cette aventure qui n'a duré que très peu de temps. Bien sûr, ces maisons à 1 euro par jour, une fois terminées, ont un aspect extérieur parfaitement agréable et très acceptable. Malheureusement, quand les premiers chocs climatiques arrivent, au bout de quelques temps, les désagréments en tout genre sont à constater. Eh bien, pour la vie du croyant, il en est de même. Elle prend du temps, beaucoup de temps à se construire. Tous les aspects de la vie ne peuvent se régler du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est le choix du terrain, les qualités de la fondation et la fiabilité des matériaux à utiliser. Cette parabole nous présente deux choix. Bâtir sur le roc de la vérité révélée par Dieu ou bâtir sur le sable de nos intentions, de nos idées, de la conception, de la moralité. Et attention, ne nous méprenons pas. Le texte de la parole de Dieu ne nous invite pas à travailler pour notre salut. Mettre en pratique ces paroles, c'est faire tout simplement la volonté du Père, et c'est parce que je suis sauvé que j'agis ainsi. Et vous le savez, nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas, nous étudions cela tout ce trimestre. L'homme prudent de cette parabole est un chrétien. Il a entendu, lu la parole, il est sauvé, et il met maintenant en pratique ces choses. L'homme insensé est sauvé, il se dit chrétien. Il a, comme pour la plupart d'entre nous, beaucoup entendu la parole, mais il a répondu « Non merci, ce n'est pas pour moi ». Malheureusement, cette réponse se trouve dans la bouche de beaucoup de chrétiens, surtout quand il faut s'engager à long terme dans le service de l'Église, afin de la soutenir dans les efforts qu'elle entreprend. Pourtant, combien parmi nous ont répondu « Oui » lors de notre engagement par le baptême de la soutenir? Le verset 27 du chapitre 7 de Matthieu nous parle de vent violent, de pluie. Et peut-être notre mémoire fourbille d'images et de scènes plus ou moins récentes des dernières tempêtes, ou de plus abondantes. Nous avons suivi les actualités ce qui s'est passé dans le sud de la France, même dans d'autres contrées du monde. Je crois que nous sommes tous touchés par cela. Nous ne pouvons rester insensibles. Des familles interrogées après ces types de catastrophes ne cachent pas leur angoisse, leur désespoir face au déchaînement de la nature. Et des personnes témoignent qu'on a effectivement abusé de leur méconnaissance du terrain, qu'ils ont fait confiance aux promoteurs. Ils disent « si l'on nous avait prévenus, nous n'aurions pas bâti à cet endroit. Nous avons été trompés. » Vous vous rendez compte, nous avons travaillé toute notre vie. Nos économies, sous par sous, sont passées dans cette maison. Et en moins de 2 heures, il ne reste plus rien. Qu'allons-nous devenir ? Les gens sont inquiets devant, effectivement, leur avenir. Malgré ce constat d'échec, certains choisissent de rester pour essayer de recommencer, gardant l'espoir que cela ne se reproduira pas. Peine perdue pour certains, car une deuxième fois, une troisième fois, les événements recommencent. Il y a des drames de la vie qui nous frappent, ils nous font vaciller, des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. La question que nous pouvons nous poser ce matin, pensez-vous que l'homme prudent faisait la fête en dansant chez lui ? En disant que la tempête est là, tout va bien, on est assuré chez je ne sais pas qui, et qu'on contrôle tout. La maison de cet homme a eu des dommages. Des tuiles se sont envolées par le souffle du vent. Peut-être les volets ont été arrachés. L'eau est entrée dans ces maisons, comme nous avons pu le voir sur différentes images, a endommagé tout le mobilier de cette famille. Mes amis, dans la tempête de notre vie, à qui ou à quoi nous raccrochons-nous ? Quel est notre souci majeur ? Nos économies, peut-être ? Depuis la crise de l'euro, on n'a jamais vendu autant de coffres-forts. Croyons-nous encore à la promesse de Jésus ? Promesse audacieuse, c'est vrai, certes, mais elle ne nous soustrait pas aux réalités tragiques de la vie. Ce matin, la promesse est faite à tous ceux qui veulent vivre pour et avec Christ, pour tous ceux qui choisissent de bâtir leur avenir et leur espérance sur ces promesses qu'il sera tous les jours avec nous. Je ne vous apprends rien qu'en vous disant que la mer gronde, que la tempête se fait de plus en plus menaçante, beaucoup plus menaçante que par le passé, et le monde craque de partout. Le système économique mondial est au bout du bout, dit-on. Les pauvres, les riches, les économistes, tous les chefs d'État sont dans l'angoisse, dans l'attente de ce qui arrivera, non pas dans un an, non pas dans 6 mois, mais demain. Et le pire est encore à venir. Les grands économistes disent « notre système vacille, sa base n'est pas sûre ». La voie d'eau est trop importante. Les peuples sont dans la rue, les indigents, les indignés, ils crient leur souffrance. Personne n'échappera à cette ruine soudaine que prédit la parole de Dieu. Il y a un peu plus de 3 ans, peut-être vous avez eu connaissance de cette étude concernant 30% des Français qui sont en quête de spiritualité. Et le drame financier que vit le monde actuellement et le comportement des hommes d'affaires parfois peuvent nous surprendre. Et ce matin, je suis venu avec mon journal du 4 novembre. Crise financière quand les traders implorent le ciel. Le sous-titre, désorienté par la crise, de nombreux banquiers et traders éprouve un besoin de spiritualité. Il se tourne vers Dieu, dans les monastères, dans les églises, les fidèles sont de plus en plus soucieux, sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils sont ébranlés dans leur certitude. Je me permets de vous lire quelques encarts très édifiants. Ils se bousculent dans les églises, dans les monastères. Depuis 2008, dans la crise de l'euro, les banquiers et traders doutent d'eux-mêmes et de leur métier. Témoignage. Ils ont dû remercier le ciel lorsque les traders ont assisté hier, soulagés à l'envolée de la bourse après la décision de la Banque Centrale Européenne de baisser au taux directeur. Car, désorientés par le yo-yo des marchés, pressurisés par les agences de notation, les financiers se tournent de plus en plus vers le bon Dieu. Depuis la crise de 2008 et maintenant, l'ébranlement de la zone euro, ils se bousculent sur le banc des églises ou se tiennent dans le silence des prieurés. Non pour prier pour le maintien de leur bonus, mais en quête de spiritualité, conséquence d'une crise et d'une prise de conscience d'une profession dite privilégiée, stigmatisée pour les rémunérations extravagantes. Encore un autre exemple, des retraitants. On parle ici de la prieurie Saint-Joseph, pardon, qui se trouve en Seine-et-Marne. Peut-être quelques-uns connaissent ce lieu. Des retraitants. Elle et la vingtaine de sœurs cloîtrées, dont certaines très âgées, on refuse de plus en plus de demandes et la demande est croissante. Il est très rare de voir les mêmes personnes, les mêmes groupes. Nous accueillons toutes les professions. Il y a une forte proportion issue des finances. La crise a agi comme un révélateur. Beaucoup ont mesuré les limites de la société de consommation. Ils réalisent que ce n'est ni l'argent, ni la voix, ni les actions en bourse qui donnent du sens à leur vie. Et pour finir ici, cet autre exemple concernant Marie-Laure Duguet, qui est une ex-gestionnaire du Crédit Agricole, elle dit elle est nichée au cœur de la Défense, siège de nombreuses banques françaises et étrangères. Notre-Dame de la Pentecôte vient de fêter ses 10 ans. Mercredi dernier, en pleine crise grecque, ils étaient environ 250 à 300, croyants et non-croyants, à être venus écouter le père Michel Anglarès, le prêtre de la paroisse. Un fidèle de la première heure se souvient, il y a quelques années, nous étions une poignée, un peu comme les apôtres. Dopée par la crise, l'Église accueille aujourd'hui entre 50 et 100 personnes quotidiennement, du lundi au vendredi. Ça nous rappelle peut-être un peu cette histoire que la sœur Louis nous a racontée, la semaine dernière, lors de sabbat après-midi. De nos jours, on peut être laïque et avoir sa propre religion, on peut même adhérer à plusieurs croyances, on peut bâtir sur le sable une belle maison, construite avec des briques de diverses croyances, mais cela nous place sur un terrain instable et dangereux. Quels que soient les événements qui surviennent dans notre vie, le Christ nous invite à nous accrocher à ses promesses, à sa promesse. Je vous invite à lire ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et nous continuons le verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien sûr, cette promesse, c'est la dynamique de l'espoir, de l'espérance. Nous sommes invités, malgré cela, à tenir bon, malgré les situations défavorables. Et bien sûr, nous entendrons toujours les uns des et des autres pour nous dire « Arrêtez, ça ne sert à rien de croire à ces choses, le temps est passé, tout cela c'est inutile ». c'est ringard, c'est has-been, comme on dit de nos jours, n'est-ce pas? Alors cette promesse, elle est faite, comme je le disais, pour les fidèles, pour ceux qui demeurent en Christ, pour ceux qui cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Il nous faut changer certainement notre vision de l'avenir, entrer dans la perspective du dernier jour. Et pour cela, je vous invite à découvrir aussi le texte d'Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, les versets 16 à 19. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre place avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordera, passera, vous serez pour lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera le matin, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. » L'image que nous décrit ici le prophète est celui du jugement, bien sûr. Jugement de Dieu qui, comme un torrent dévastateur, détruit le méchant. Mais la promesse est faite au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. En bâtissant notre vie sur le roc de la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre au dernier jour. Point de hâte. Ce jour-là, les difficultés fondront quand nous paraîtrons devant Dieu et nous entendrons dire de sa voix « Entre dans la joie de ton maître ». L'image de l'homme insensé au verset 27 du chapitre 7 de Matthieu est une image de destruction. Sa ruine a été grande, décombre, rien à sauver, rien à récupérer. Et il est possible que quelqu'un, pourtant, ait averti cet homme du danger qu'il encourt, de son choix. Je voudrais ce matin tout particulièrement m'adresser à nos jeunes et à tous ceux qui sont en âge de comprendre et de prendre une décision. Mes amis, chers jeunes, je vous invite à aujourd'hui, avec Christ, c'est toujours aujourd'hui, ce n'est pas demain. Je vous invite à intensifier votre relation avec Dieu. Plus que jamais, vous êtes, c'est vrai, l'avenir de l'Église, aussi celle de la nation. Il est vital que vous soyez enracinés profondément en Christ afin de ne pas être emportés par les vagues en furie de ce monde. Ce matin, Dieu vous pose une question, Dieu vous pose cette question, où en es-tu et que fais-tu? Où en es-tu? Que fais-tu? Je vous invite à prendre votre vie spirituelle en main. Allez de l'avant, utilisez les bases que vos parents vous ont données. Ces fondements sont des fondements sûrs. Et je suis persuadé qu'avec Christ à vos côtés, vous serez capable d'affronter avec courage et force les problèmes et les échecs. Aujourd'hui, devenez adulte dans la foi. L'Église, bien sûr, compte sur vous. Ses projets, pour ses projets immédiats et pour ses projets à venir. Elle a besoin de votre dynamisme, de votre esprit de créativité et cette spontanéité qui vous est propre. Croyez que votre présence active renouvellera et réveillera l'Église en lui donnant un nouvel élan inspiré par Dieu. L'Église a besoin de vous. Et comme l'apôtre Paul, devenez les imitateurs de Christ, soyez audacieux, donnez-vous envie d'avoir envie. À tous, que nous soyons engagés ou non, ce message est un avertissement. Nous vivons la vie à fond. N'oublions pas qu'il y a une tempête à l'horizon. Un jugement pour ceux qui rejettent Dieu et se sont rebellés contre lui. Peut-être que certains fondements ont besoin d'être confortés, voire détruits, pour tout reconstruire avec de bons matériaux, en ayant comme promoteur et architecte Christ. Rappelons-nous que Dieu est capable de finir l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. Si nous l'acceptons, il posera les fondements et accomplira le projet de construction de notre vie. Amen.